suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. En sortant d'un débat sur l'insertion professionnelle auquel il participait par une belle soirée de juin 2012 pour fêter l'anniversaire de la mission locale pour l'emploi d'une commune de la banlieue nord de Paris, Stéphane Beau n'imaginait pas un seul instant qu'il démarrait là l'une de ces enquêtes qui marquent une vie de sociologue et se traduit in fine par un ouvrage décisif de sa bibliographie, un texte qui se donne immédiatement comme un classique de la discipline. Ce que ne savait évidemment pas non plus Stéphane Beau, c'est la manière dont cette enquête au long cours allait se trouver percutée par l'actualité dramatique des attentats qui ont frappé la France quelques années plus tard. Stéphane Beau est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. La France des Belloumis, portrait de famille 1977-2017. 2017, on comprend pourquoi. 1977, c'est l'année de l'arrivée en France d'une femme et de ses trois enfants qui vient rejoindre son mari, déjà installé en France comme travailleur immigré, émigré d'Algérie pour trouver un travail en France. Cette famille bénéficie de ce qu'on appelle le regroupement familial. Elle va s'installer durablement en France, où elle vit toujours. D'autres enfants vont naître en France. Cette famille de deux parents et huit enfants est une famille d'origine algérienne que Stéphane Beau a choisi d'appeler les Belloumis. Ce n'est pas leur vrai nom, mais cette famille existe bien. Il en a rencontré tous les membres pendant 5 ans, régulièrement, plus certains que d'autres. Il les a rencontrés à la faveur de longs entretiens, mais également à la faveur, et c'est moins banal pour un sociologue, à la faveur d'échanges par texto, de coups de téléphone aussi, une manière singulière de mener une enquête sur la durée pour faire ces portraits d'une famille qui sont aussi une manière de raconter une partie de l'histoire de France, de poser des questions sur des domaines qu'il connaît bien, l'éducation. Stéphane Beau a longtemps travaillé sur les questions d'éducation en particulier. Alors pour en parler en deuxième partie, nous serons rejoints par Faïza Zerwala, qui est journaliste à Mediapart, qui travaille aussi sur les questions d'éducation. Ce sera l'occasion de confronter les regards journalistiques et sociologiques. Faïza Zerwala, avant de travailler à Mediapart, a participé au Bondi Blog en particulier, et on lui doit un livre, Des voix derrière le voile, qui a paru en 2015 chez Premier Parallèle. Stéphane Beau, vous êtes maintenant professeur de sociologie à l'université de Poitiers. Et ce livre, La France des Belloumis, paraît aux éditions La Découverte. Comment vous êtes-vous lancé dans cette enquête? Vous avez l'habitude de mener des enquêtes un peu particulières, mais celle-là, je dois dire qu'elle est très atypique.
Oui, on peut dire ça, elle est atypique. Alors, comment l'idée m'est venue? Vous l'avez dit dans votre présentation d'émission, c'est vrai qu'un jour, je suis invité à parler pour célébrer les 30 ans d'une mission locale d'une ville de Seine-Saint-Denis. Il y a un débat qui s'organise entre le sociologue, en l'occurrence moi, et un employeur qui offre des stages à ces jeunes de Seine-Saint-Denis en leur permettant de trouver un petit boulot, un stage, c'est important. Et dans cet échange, je raconte un peu, comme sociologue, les destins scolaires, professionnels, des enfants de milieux populaires, notamment des enfants d'immigrés, donc je fais mon topo de sociologue, si on peut dire. Le débat est intéressant, c'est dans une salle de cinéma, il y a plus d'une centaine de personnes, et à la fin de cet échange, quand je descends les marches de la scène de ce cinéma, assez vite, dans les travées, il y a 3 jeunes femmes, que je perçois comme jeunes en tous les cas, qui visiblement m'attendent. Je m'adresse vers la première, qui se trouve être la fille aînée, qui s'appelle Samira, qui est infirmière de formation, cadre de santé, et qui me dit merci pour ce que j'ai dit, merci d'avoir donné un cadre, on va dire, à la fois historique et sociologique, des enfants d'immigrés, notamment algériens, qui lui parlent. Et donc, à la suite de ça, les 2 autres sœurs qui sont là, nous échangeons un tas de propos, et lors du pot dans la soirée sur l'esplanade, je m'amuse, entre guillemets, à discuter de leur histoire, et petit à petit se compose devant moi un paysage familial qui m'intéresse, qui m'intrigue, parce que j'avais aussi fait, lors de ma thèse que je faisais avec Michel Pialou sur le terrain à Montbéliard, j'avais fait un premier travail sur une biographie de famille algérienne de 6 enfants. Et donc j'avais toujours eu en tête cette idée que finalement c'est intéressant de travailler sur une famille. Voilà, il y a un bon contact, tout simplement. Et, entre guillemets, elles sont sympas, elles sont avenantes, elles ont plein de choses à dire, elles n'ont qu'une envie, c'est de me parler, je comprends ça assez vite. Bon, c'est un peu le bénéfice de l'âge, si l'on peut dire. Et assez vite, je leur demande, est-ce qu'on pourrait pas prolonger cet échange informel par un premier travail d'entretien pour voir à peu près pourquoi ça m'intéresse cette histoire de famille? Parce que très vite, je comprends qu'en fait, la famille de 8 enfants est un peu coupée en deux avec les 5 filles. Il y a 2 filles d'abord, ensuite 3 garçons et ensuite 3 filles. C'est un peu compliqué à expliquer, mais je vais à l'essentiel. Et en fait, les 5 filles sont toutes diplômées, bac plus 3, bac plus 5, ont toutes des emplois de profession intermédiaire. Et les 3 garçons, eux, sont moins diplômés. Il y en a qu'un qui a eu un bac pro, les autres ont arrêté leurs études avant. Donc il y a ce phénomène qui me paraît déjà
ça central. C'est cette structure, au fond, qu'on pourrait dire typique, en tous les cas pour quelqu'un qui a fait de la sociologie de l'éducation, qui sait que les filles issues de l'immigration réussissent mieux que les garçons scolairement. C'est ce côté typique de la famille qui vous attire, qui vous dit il y a peut-être là une piste à suivre.
Absolument, il y a cela bien sûr, mais il y a aussi un point très important. C'est que on peut très bien aujourd'hui, quand on est issu de milieu populaire, on peut très bien aussi ne pas avoir réussi à faire des études et avoir un emploi. Et le fait qu'aussi les enfants, les garçons aient un emploi, ça m'a aussi assez intrigué. Je me suis dit, c'est intéressant de voir, justement, de creuser un peu, ça contredit un peu les lois statistiques qui font qu'aujourd'hui, un jeune peu diplômé, venant d'une cité, a forte chance d'enchaîner des petits boulots, alors que là, ils ont tous les 3 des emplois fixes. Donc, il y a cette idée-là qui me paraît intéressante. Et pour finir, pourquoi enquête atypique et pourquoi à ce moment-là? C'est que il faut insister sur le fait que c'est juin 2012, c'est quelques mois après le massacre de Mohamed Merah à Toulouse, et que ça a joué un rôle très important, notamment dans la volonté de Samira la sœur aînée de me parler, parce qu'elle est encore sous le coup de cette histoire-là, et elle vit elle-même et ses sœurs aussi l'impact très important qu'on a, j'imagine, me semble-t-il, peut-être sous-estimé pour ces familles d'origine maghrébine en France. L'impact que ça a eu, c'est que bien sûr il y a eu un effet d'amalgame, et elle a envie d'une certaine manière de dire autre chose sur sa famille. Et dernier point, elle me le dira après dans nos échanges, parce qu'il n'y a pas que des textos, il y a aussi beaucoup de mails. Elle me fera une fois un mail 1 an plus tard pour Stéphane. Et dans ce mail, elle m'explique, je lui avais demandé un peu de faire un bilan de notre première année d'enquête, que finalement, elle aurait eu envie elle-même d'écrire cette histoire familiale. Mais pour des raisons, parce qu'elle a des enfants, qu'elle a un travail qui la prend beaucoup, elle n'a pas le temps. Et on pourrait dire qu'elle m'a utilisé, mais à l'insu de mon plein gré, si l'on peut dire, pour écrire son histoire familiale. J'étais son écrivain public, entre guillemets.
Alors il y a ces attentats, Mohamed Merah, au début, juste avant l'enquête, et puis il y a d'autres attentats auxquels je faisais allusion, qui vont aussi produire quelque chose dans les relations à l'intérieur de la fratrie et qui vont donner lieu pour vous à des échanges intéressants qui permettent de comprendre d'autres questions, mais on y viendra plus tard. Peut-être pour situer les conditions d'arrivée qui sont très typiques, là encore, de cette famille et d'abord du père en France.
Voilà. Donc le premier chapitre du livre est ce que j'appelle, en reprenant les expressions de Abdelmalek Sayad, une histoire de l'émigration-immigration. En France, il faut toujours, on pense toujours les immigrés à part de la situation d'arrivée. Et Sayad a fait un grand texte, Les 3 âges de l'immigration algérienne en France, où il insistait sur ce point décisif pour comprendre les immigrés en France, quelle que soit leur origine.
Jamais perdre de vue qu'ils sont des émigrés.
Oui. Et pourquoi ils émigrent? J'ai essayé, bien sûr, de retracer cette histoire familiale. C'est un peu compliqué parce qu'effectivement, le père comprend très bien le français, mais parle peu. Je suis allé chez eux et j'ai rencontré les parents. Je me suis installé sur place pendant 3 jours et je les ai vus assez régulièrement. Mais effectivement, lui-même ne peut pas tenir un discours en français devant moi, qu'il appelle l'écrivain, etc. Donc il est aussi, bien sûr, assez intimidé par la situation d'enquête. Donc j'ai fait, dans un premier temps, raconter l'histoire de la famille par les sœurs aînées, puisque ce sont les sœurs aînées qui ont été, on pourrait dire, élues par le père comme celles qui vont transmettre l'histoire familiale.
Dépositaires de cette mémoire.
Donc elles vont me dire un tas de choses tout à fait intéressantes, mais en même temps, intéressantes aussi par le flou, parce qu'elles ne savent pas bien comment ça s'est passé. Donc l'enquête par entretien et par mail et par texto, je revenais tout le temps, mais je comprends pas bien comment ça s'est passé, comment il est venu en France. Au départ, on me dit qu'il est venu en 68, après en 70, après en 73. Finalement, il est venu en 71. C'est la dernière année d'enquête où Samira prend son magnéto, va là où ils habitent, à 400 km de Paris, faire un entretien en arabe dialectal avec son père pour lui dire « raconte-moi ton histoire ». Et moi, je lui ai posé une série de questions par mail pour lui dire « voilà, il faut vraiment que je sache ça ». Par exemple, quand est-ce qu'il est venu en France? Bon, et petit à petit, on arrive à savoir que c'est 71.
C'est-à-dire qu'il y a une dimension collaborative de l'enquête, voilà. ou des effets au fond de l'enquête sur les enquêtés.
Absolument.
Et que vous ne cachez pas du tout, que vous essayez autant que possible de comprendre pour les neutraliser.
Absolument, pour comprendre la relation d'enquête qui, bien sûr, c'est elle qui produit un certain type de résultats. Par exemple, au début, ils vont me dire effectivement, ils vont insister sur ce qui est assez classique. Il arrive à Paris, il se perd parce qu'il ne dit pas le français, donc il se perd dans le métro. Donc ça valorise le père qui l'immigration, comme l'a dit Sayad, c'est aussi un déracinement. C'est très coûteux psychologiquement, c'est difficile d'émigrer. On ne le dit jamais assez. Elle me raconte ça. Puis après, bien sûr, quand je fais l'histoire avec elle plus en détail, on comprend qu'aussi, de la part de cette famille, du père, il y a l'idée d'améliorer ses conditions de vie. Il est ouvrier dans une usine de bonbons à Mostaganem. Il tire le diable par la queue. Il commence à avoir déjà un enfant. Et l'avenue en France, c'est aussi une conjonction entre, d'un côté, les employeurs français qui demandent de la main-d'œuvre. On est avant 74, l'arrêt d'immigration légale, qui demande beaucoup de main-d'œuvre non qualifiée. Et puis, de son côté à lui, il y a l'idée de simplement avoir une meilleure vie pour lui, pour sa famille. Et là,
il y a une sélection, c'est pas facile.
Absolument, c'est pas facile. Il faut être physiquement, il faut tenir. C'est intéressant parce que je ne savais pas trop, mais peut-être que les historiens diront que je ne suis pas assez cultivé en histoire de l'immigration. Mais bien évidemment, par exemple, on sait qu'il y a une concurrence pour avoir un poste. Et le fait qu'il ait une famille, ça lui donne un avantage. Parce qu'il y a son copain d'usine qui est célibataire, qui est pris. Mais comme il est célibataire, il n'aura pas son visa par l'Algérie. Parce qu'on privilégie les jeunes pères de famille, parce qu'on espère, grâce à cela, qu'ils vont pouvoir revenir. Donc c'est des choses comme ça assez intéressantes, j'appelle ça un peu l'histoire par en bas de l'immigration. Donc en fait, dans cette histoire d'immigration, il y a bien sûr un point central, c'est que c'est pas n'importe quel immigré, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu rural et qui ensuite est venu à la ville, à Mostaganem, et qui ensuite arrive en France et qui, par exemple, il va garder, c'est la citation de Sayad dans le début du livre, il va garder de son enfance rurale, il va par exemple faire beaucoup de jardins, il aura même un prix du jardin ouvrier de sa ville. Donc là aussi, c'est intéressant d'avoir ce point de vue sur les immigrés. Ils sont pas uniquement en HLM, ils ont une histoire passée qu'ils vont ensuite retraduire dans leur vie en France.
Alors on va pas rentrer dans tous les détails, oui. Mais là il y a des singularités aussi, parce qu'il se trouve que il est peut-être cette famille est moins ouvrière, dites-vous, qu'elle n'aurait pu l'être, puisque le père, pour des raisons de santé, va se trouver sans emploi, et donc sa femme qui l'a rejoint, qui est plus jeune et qui est allée à l'école plus longtemps que lui, va être en première ligne au plan économique, et puis après les filles aînées. Alors il y a différentes choses, on peut pas tout résumer, parce que c'est une enquête sociologique qui se lit à bien des égards comme un roman familial aussi, d'une certaine façon. Mais il y a des choses sur lesquelles je voudrais qu'on s'arrête, Stéphane Beau. C'est la façon dont, par exemple, vous essayez de comprendre les différences, d'une part, entre les filles et les garçons, vous l'avez dit un petit peu déjà, et puis d'autre part, les différences entre les filles et les filles dans cet ensemble d'enfants, puisque les filles et les filles qui sont séparées par des garçons et qui surtout vont à l'école à des moments différents par rapport à l'histoire de leur propre famille, mais aussi par rapport à l'histoire du système éducatif français, ou plus généralement même de la société française. Alors peut-être on peut commencer par la différence entre les filles et les filles.
Oui, alors donc c'est en fait des différences de génération sociale à l'intérieur de la famille. Pour comprendre cela, il faut comprendre que en fait entre l'aînée Samira qui est née en 1970 et la Benjamine Nadia qui est née en 86, il y a 16 ans d'écart. Donc en fait, il y a bien sûr, les trois dernières sont nées en 83, 84, 86, et les deux premières aînées, 70, 73. Donc il y a 15 ans d'écart entre elles. Et en fait, ça m'a tout de suite frappé, la différence de génération, notamment dans leur manière d'être, de parler. Les deux sœurs aînées, par exemple, parlaient de manière extrêmement soutenue, avec notamment chez l'aîné, une sorte d'hypercorrection linguistique, etc. Donc j'ai essayé de travailler un peu les effets de socialisation scolaire, qui me semblent assez importants. Et là, bien sûr, tout part de l'aîné. Le chapitre 2 s'appelle les premières de cordée, avant que Macron n'usurpe ce terme, mais c'était quand même ça au départ, ou locomotive de la fratrie. Ça veut dire qu'elles sont les premières. Et donc c'est pour ça que c'est si important qu'elles soient les aînées et qu'elles réussissent à l'école, parce qu'elles vont entraîner dans leur chemin, elles vont tracer un sillon scolaire, elles vont entraîner notamment leurs sœurs, parce qu'elles vont ensuite être, on pourrait dire, des mères d'élèves, des secondes mères, en passant leur temps à encadrer leurs sœurs.
La différence de génération... Et des stratèges scolaires, ça vous le soulignez aussi, capables de faire prendre les bonnes options. Alors pas toujours, parce qu'il aurait fallu être plus stratège que stratège parfois, mais...
Oui. Voilà, donc elles sont aux aguets scolairement, parce qu'elles ont, alors pour dire, pour que pour que les auditeurs comprennent, hein, donc réussite scolaire, parce que rares à l'époque statistiquement sont les filles d'immigrés algériennes qui arrivent à avoir un bac général, elles ont un bac ES, l'une fait un diplôme d'infirmière, la seconde, Leïla, fait un DUT de carrière sociale, donc ce sont des études quand même sélectives. Là aussi, on a tendance, je suis une petite digression, à toujours penser à la mobilité sociale sur voilà le fils d'ouvrier algérien devenu polytechnicien. Ça n'existe pas, à 0,01%. Par contre, ce qui existe, quand on regarde les chiffres des mobilités sociales...
C'est l'accession aux classes moyennes.
Voilà, c'est l'accession aux petites classes moyennes. Donc cette famille, elle est intéressante aussi parce qu'elle illustre bien un processus classique dans la mobilité sociale dans les milieux populaires. On a des parents ouvriers non qualifiés en l'occurrence, et puis les filles ou les garçons deviennent, ou les filles notamment,
infirmières.
C'est ça la vraie mobilité sociale au sens statistique du terme. Pourquoi c'est important? On va commencer par cette différence de génération, parce que justement les deux aînés ont grandi dans un contexte où, à la fin, elle le dit, Samira, ça me semble important, elle dit, il y avait une bienveillance de la France. Je pense que c'est important d'avoir ce regard historique, une bienveillance des autorités. J'ai retrouvé, je ne peux pas dire malheureusement où, mais je suis allé voir dans les archives des années 75-80, sous Giscard d'Estaing, par exemple, vous avez un tas de réunions par le préfet, comment intégrer les immigrés. Il y a une vraie politique d'intégration et d'accueil des immigrés. Et du côté scolaire, c'est très important, les deux aînés vont tout dire qu'effectivement, du côté des enseignantes, certaines d'entre elles ont fait 60 sont très soucieuses de la réussite scolaire de ces enfants de milieu populaire, notamment ces filles algériennes, parce qu'il y a toujours à l'époque encore un peu la menace du mariage arrangé. Donc il y a aussi une mobilisation collective. On est dans une ville communiste.
Des institutrices qui jouent des rôles importants.
Voilà, des institutrices qui jouent là. On est dans une ville communiste, avec de l'encadrement populaire, avec de l'animation, avec des loisirs, avec des colonies de vacances. Donc, ces filles ne grandissent pas hors sol. Il se trouve que mardi dernier, il y a un très beau documentaire sur la 5, Parcours de combattante, un remarquable documentaire. Et il y avait le juge Jean-Pierre Rosenzweig qui racontait que, justement, les problèmes d'enfants délinquants qu'il voyait en Seine-Saint-Denis, c'est parce qu'il manquait d'adultes référents. Il y a un très beau passage où une ancienne délinquante vient le voir, elle s'appelle Laetitia, elle vient le voir pour le remercier parce que ce juge, pour une fois, un adulte l'a écouté. Et il y a un très beau moment de ce très beau film Parcours de combattante où on voit très bien qu'effectivement, grâce à ces référents adultes, ces jeunes peuvent se construire. Ces deux aînés, Samira et Leïla, elles ont bénéficié d'une conjoncture historique.
Ça change avec leur plus jeune sœur parce que le collège n'est plus tout à fait le même. Le quartier a sans doute perdu de sa mixité sociale aussi. Et à travers l'histoire de cette fratrie, on voit des évolutions profondes de la société française. C'est tout l'enjeu de votre enquête, Stéphane Beau.
Oui, l'enjeu, c'est de faire, on pourrait dire en termes semi-savants, micro-sociologique. En général, micro, c'est pas terrible, mais l'idée, c'est de relier ce micro-sociologique à du macro-sociologique ou du macro-historique. C'est qu'en fait, effectivement, cette histoire familiale, elle s'inscrit dans une histoire sociale plus globale et qui, effectivement, montre l'importance de cette fracture générationnelle. Il se trouve qu'avec Olivier Masclet, on avait fait un article dans les Annales expliquant, c'était une commande des Annales pour essayer de comprendre les émeutes de 2005. Et on avait beaucoup insisté sur l'écart entre ce qu'on a appelé la génération des beurs, la génération de la marche des beurs, politisée par cette marche, avec un tas d'associations de gauche syndicale qui ont emmené tout le monde, si l'on peut dire. Et puis la génération 15-20 ans plus tard, qu'on a appelée de cité, mais je pense qu'effectivement, c'est très une expression qui ne me semble pas fausse, puisque effectivement, on sait tous aujourd'hui que les formes d'encadrement ont largement disparu et qu'il y a le dernier chapitre du livre sur la religion, on en reparlera peut-être.
Alors l'autre différence c'est avec les frères, c'est compliqué de faire la part des choses puisqu'il y a aussi un décalage générationnel en partie avec les frères, mais il y a vraiment quelque chose qui tient au genre. Alors vous commencez ce chapitre aussi par remarquer que les questions par exemple de racisme sont toujours des questions extraordinairement sexuées, il ne faut pas l'oublier, il y a là une forme de stigmatisation des hommes qu'il est important de rappeler, Stéphane.
Oui, comme j'ai commencé l'enquête par les filles, entre guillemets, par les trois sœurs, les trois sœurs qui étaient là à ce débat de la mission locale, ça m'a frappé, notamment les deux sœurs aînées, les premiers entretiens, qui sont des entretiens longs, 2-3 heures, répétés, etc., quasiment le mot de racisme, le mot de discrimination apparaît quasiment jamais, notamment dans la bouche de la sœur aînée, qui a fait l'enquête, qui a été mon allié d'enquête, inamovible, si l'on peut dire. Et quand un mois plus tard, ou 2 mois plus tard, je fais l'entretien avec le deuxième frère, que j'appelle Asdine, qui est chauffeur de bus RATP, c'est quasiment les premières choses qui arrivent. C'est des expériences du racisme vécu. Un exemple classique, il est chauffeur de bus RATP. Là aussi, c'est intéressant. Quand il est chauffeur de bus RATP, grande fierté du père. parce que c'est un statut, parce qu'il est protégé du chômage, parce que c'est pas rien. Quand on est, comme lui, un père, comme il disait, qui travaillait à la pioche, qui voulait que ses enfants travaillent avec le stylo, c'était l'expression familiale, c'est l'expression en français qu'il avait, que tout le monde m'a redite, mais même si son fils ne travaille pas avec le stylo, ça n'empêche qu'il a un statut. Il est chauffeur de bus RATP. Mais par ailleurs, dans le premier entretien qu'on fait, très vite, il me dit, voilà, chauffeur de bus RATP, un matin, je vais au travail en métro pour rejoindre mon dépôt de bus, et il se fait arrêter dans le métro par la sécurité, etc. Et là, bon, on le sort du métro, fouille au corps, et là, tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il est RATP. Et les types lui disent, mais t'aurais dû nous le dire. Non, je voulais juste voir ce que ça faisait d'être arrêté comme ça pour rien. Là, je pense que c'est des exemples. Il ne s'agit pas d'entrer uniquement là-dessus, mais je pense que c'est quand même un point important d'insister sur le fait que le racisme est fortement sexué. Ça ne veut pas dire que les filles n'ont pas vécu, mais beaucoup moins souvent et avec beaucoup plus de manières de pouvoir s'en protéger.
D'ailleurs, une des filles fait une expérience assez traumatisante à l'école, qui a failli avoir des conséquences importante sur sa scolarité.
Alors là, c'est intéressant parce que je ne parlerai pas de racisme. Là. Justement, c'est la troisième sœur que j'appelle Amel. Quand je fais un entretien avec elle, souvent, elle me fait comprendre qu'elle était turbulente au lycée, qu'elle n'était pas facile, etc. Donc, je creuse cet indice en disant, mais d'où vient cette turbulence? Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, mais dans cette manière d'être, quand elle arrive en seconde, en lycée général, elle vit de manière très violente le conflit de classe qu'il y a en seconde. Elle vient d'un collège de quartier, elle vient d'un quartier HLM, elle arrive dans un lycée polyvalent, mais quand même avec fréquenté par des gens de milieu, classe moyenne, un peu classe supérieure. Elle se sent moins respectée par les profs, mais elle développe, on pourrait dire, des stratégies. Elle dit même elle-même, j'étais un peu peste. Un peu peste au sens où elle avait développé des logiques de petite provocation par rapport aux profs. C'est pour ça que je dirais pas le mot raciste pour le coup, je dirais justement qu'elle se sent tellement mal dans ce milieu-là qu'elle va développer avec certains enseignants, pas tous bien sûr, des espèces de petites guéguerres symboliques, etc. Et à un moment donné, elle a fait une entourloupe, si l'on peut dire. Elle a caché quelque chose à une documentaliste. Je passe sur les détails. Et après, il y a une prof qui lui dit, mais c'est à cause de gens comme toi, de filles comme toi, que des gens votent Le Pen. Bien sûr, pour elle, c'est un moment terrible, parce qu'à ce moment-là, ses amis qui sont dans sa classe lui disent « mais tu vas pas te laisser faire comme ça ». Donc ça monte en mayonnaise, la mayonnaise prend, et donc elle est convoquée par la directrice, on la menace d'expulsion. Là, ce qui est intéressant, c'est justement, par rapport aux sœurs aînées, jamais ce genre de circonstances aurait pu opérer. Mais là, il y a ce sentiment de fragilité qui est là, et qui est, à mon avis, très générationnel.
Alors, je le disais en commençant l'émission, l'enquête démarre en 2012, elle se poursuit pendant 5 ans, et donc les attentats de 2015 vont arriver au milieu de cette enquête et vont faire surgir des questions que vous n'aviez pas prévues, et même, je dirais, au-delà de ça, vont venir, non pas contrarier, mais complexifier le portrait que vous vouliez dresser, c'est-à-dire finalement d'une immigration ordinaire, banal, comme un phénomène social banal, dirait François Héron, par exemple. Et vous allez voir les choses changer tout simplement parce que le débat public dans le pays change et affecte tout un chacun, et que les personnes que vous rencontrez depuis toutes ces années pour cette enquête vont se trouver sommées, peut-être, en tout cas vont choisir de prendre la parole, parfois publiquement sur les réseaux sociaux, et puis certainement à l'intérieur de la famille et dans les échanges qu'elles ont avec vous, Stéphane Beau.
Oui, exactement ça. Ces attentats, le premier, le 7 janvier, le Charlie Hebdo, c'est un moment que j'ai par la suite, sur lequel j'ai réfléchi. Au début, je suis comme tout le monde, la famille, les enfants, Belloumi et moi, nous sommes tous pris par cet événement. Mais il y a un indice qui est très fort. J'ai pas pris de note de terrain à l'époque parce que j'étais pris par l'événement moi-même. Mais l'après-midi même, vers 14h30, Samira, la sœur aînée, nous échangeons principalement par mail et par texto, on s'appelle quasiment jamais au téléphone, elle m'appelle au téléphone, elle me dit, vous avez vu, j'ai vu, elle me dit qu'elle est effondrée, et elle me demande explicitement des mots pour comprendre, des mots pour la rassurer, des mots parce qu'elle est envahie par l'émotion, par l'impact, elle a ce qu'elle appelle une boule au ventre, et elle peut pas s'empêcher de m'appeler pour trouver une forme de réconfort, ou elle le dira dans un mail, que je lui trouve des mots théoriques pour comprendre. Je lui explique que je suis comme elle, abasourdi, etc. Mais c'est un moment assez important. Et par la suite, j'ai été comme tout le monde pris par l'événement. Il y a eu la manif à laquelle je suis allé aussi, mais les trois sœurs sont allées aussi à la manif du 11 janvier. Mais après coup, j'ai repris un peu, pour dire, mon rôle de sociologue en essayant justement avec elles, notamment parce qu'elles habitent Paris ou dans la région, d'essayer de voir un peu comment ça s'est manifesté, cet événement, comment elles l'ont vécu. Et il y a un passage que je trouve intéressant de l'avant-dernière, Amel, qui me fait un très beau récit, je trouve, du mail, de la manière dont elle a vécu ces événements, en disant au départ, elle, c'est la Vendanaire, elle disait, bon, quand même, Charlie Hebdo, c'est pas ma tasse de thé, alors que les sœurs aînées lisaient Charlie Hebdo, lisaient Flux de Gatien, déjà, si on veut combiner l'écart générationnel, les sœurs aînées, elles sont Charlie tout de suite, les sœurs cadettes, beaucoup moins, parce qu'il y a le blasphème, le prophète, etc. Elle disait, j'étais pas trop Charlie, mais quand même, hein, c'est quand même trop violent, et il y aura dans la famille des échanges assez, je connais pas la teneur exacte, mais en fait, les sœurs aînées vont dire à tout le monde, bon, il faut être Charlie. On peut pas ne pas être Charlie parce que c'est quand même tout la France qu'on respecte, la France républicaine qui est attaquée. Donc il va y avoir, on pourrait dire, ces événements-là vont être vécus dans la famille comme très troublants, et par exemple, les sœurs aînées, pour montrer aussi l'impact, le rôle qu'elles jouent, elles vont morigéner les frères qui parfois balancent des, non pas des tweets, mais des commentaires. Ils sont tous sur Facebook. Et donc elles leur demandent de retirer ces commentaires quand c'est trop violent. Donc elles jouent un rôle un peu de, voilà, on reste unis dans cette période-là qui est très troublée.
Et là, on voit aussi, finalement, les effets d'histoires différentes qui tiennent à des effets générationnels, essentiellement, et qui renvoient à des séquences politiques historiques pour le pays. On les voit littéralement sédimenter chez des personnes.
Absolument. On voit, en fait, il y a toute la fin du livre est sur la socialisation politique. En fait, celle qui est la plus politique, c'est Leïla, la deuxième sœur, que je vais remettre dans le jeu de l'enquête, parce qu'au départ, elle est un peu dans l'ombre de sa sœur. Elle se méfie pas, mais elle est moins allante, si l'on peut dire, dans l'enquête que la sœur aînée. Et puis, petit à petit, il va y avoir des petits aménagements dans l'enquête. Et je vais lui redonner je pense que je l'ai fait un peu exprès, quand même, de lui redonner une place dans l'enquête, en valorisant ce qui la constitue, à savoir son identité politique et sociale. Elle fait du social, elle a été éduquée, elle a grandi auprès de militants communistes, elle n'est pas encartée, mais elle est proche de cette mouvance-là, elle est fondamentalement politisée. Donc on voit très bien que c'est avec elle que je vais aussi essayer de comprendre comment ça se passe, la transmission politique dans ces familles. Parce qu'on oublie toujours que les parents ne sont pas forcément politisés, mais ils ont un regard quand même sur la société française. Mais elles, par les études, par l'animation, elles vont être, notamment Leïla, elles vont être prises dans cette mouvance politique. Elles sont de gauche, et ce sont leurs valeurs premières.
Elles ont voté en 2012 pour François Hollande. Toutes. Avec enthousiasme même, en tous les cas à l'idée que Nicolas Sarkozy, voilà, ne soit plus président de la République. Et en revanche, elles vont être profondément déçues par la manière dont François Hollande, Emmanuel Valls, vont gérer les attentats, non seulement celui de janvier, mais après novembre, l'instauration de l'état d'urgence, etc.
Et surtout, le projet de déchéance de la nationalité. Ça a été massif, et je l'ai vu, voilà, ce n'est pas uniquement cette famille. Quand on regardait les réseaux sociaux, les lettres, ce projet sorti au débotté de déchéance de la nationalité, c'est quand même la gauche associative depuis 30 ans s'est battue pour contrer tous les projets de droite, la remise en cause du droit du sol, etc. C'est quand même, on pourrait dire, un patrimoine historique de la gauche militante associative, et tout d'un coup, comme ça, on ne sait comment, Hollande sort cette idée de déchéance, donc nationalité. Bien sûr, notamment Leïla, quand elle sort ça, elle m'envoie des textos complètement effondrés. Elle est effondrée. Mais qu'est-ce que, on est de gauche structurellement, et tout d'un coup, on nous dénie ce qui, voilà, alors qu'on aurait bien sûr voulu, non pas des mots de sympathie, mais comprendre. Là, on nous met de nouveau à l'index, alors qu'on subit déjà beaucoup. Donc cette idée-là que de la part de la gauche socialiste, notamment de Hollande, il y a eu ce projet-là, c'est pour notamment les deux aînés, c'est aberrant. D'ailleurs, elles vont deuxième sœur va voter Mélenchon, surtout pas.
Et puis la troisième est perdue au point d'adhérer aux Républicains.
Oui, mais ça mériterait une longue discussion. Mais voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir là aussi, c'est important aussi, même quand on comprend dans la présidence Hollande de ces 2012-2017, effectivement, elle vote contre Sarkozy. Et pour Hollande, et les sœurs aînées font voter les frères en ce sens. Et bien évidemment, la gestion politique des attentats et ces projets-là, une partie de cette famille-là se coupe de la gauche. Une partie d'entre eux vont aller du côté de Mélenchon, parce qu'effectivement, le PS, c'est le sentiment d'une trahison.
Alors cette discussion, on va la voir tout de suite dans la deuxième partie de l'émission. Mais avant ça, on écoute un extrait du nouvel album, le premier album solo depuis 14 ans de David Byrne, album qui s'appelle American Utopia, et le titre « I Dance Like This ».
In another dimension, like the clothes that you wear, a mighty, mighty battle, sprouting illegal hair. A fitness consultant in the
city, looking for a home. I dance like this because it feels so damn. Started. One can only guess, and the truth don't mean nothing.
La suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
La France des Belloumi, c'est le titre de l'enquête de Stéphane Beau, sous titre Portrait de famille 1977-2017. Un livre qui paraît aux éditions de La Découverte, dont on continue de parler dans cette deuxième partie avec l'auteur Stéphane Beau, mais également avec Faïza Zerwala. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Mediapart, je le rappelle. Vous travaillez notamment sur les questions d'éducation. Et pour une fois, dans cette deuxième partie, ce n'est pas une romancière ou un romancier, précisément parce que peut-être c'est un livre de sociologie qui se lit comme un roman. Et ça m'intéressait d'avoir le regard d'une journaliste qui travaille sur un certain nombre de ces objets, et notamment la question scolaire qui a dû vous intéresser tout particulièrement, Faïza, dans ce travail.
Tout à fait. Et je dois ajouter que ce livre m'intéresse à double titre parce que, étant d'origine algérienne, j'y ai trouvé énormément de correspondances avec le vécu de ma famille. Je me suis interrogée aussi sur certaines dates, certains événements sur lesquels je n'avais pas forcément de réponse. Par ailleurs, effectivement, toute la dimension scolaire, elle est assez bien abordée parce que finalement, elle confirme beaucoup d'études. Elle permet un petit peu d'inverser le diagnostic. Là, on part des gens et puis on découvre ce qui leur arrive. Et de fait, ça confirme ce qu'on peut lire dans des études un peu froides de sociologues qui travaillent sur des cohortes d'élèves. Et effectivement, ce qui est particulièrement intéressant dans ce livre qui est très riche, c'est cette question du genre. La question du biais de genre, elle est fondamentale parce que les filles bénéficient d'un préjugé positif, voire parfois un préjugé teinté de racisme bienveillant qui va être on va aider les filles dans leur scolarité, y compris si elles peinent un petit peu, parce qu'il faut les soustraire à l'influence de leur famille, empêcher les mariages forcés, leur permettre l'émancipation dans une idée de un peu, on va être, l'école va être le chevalier blanc qui va
délivrer. On va en faire des féministes aussi.
Tout à fait. On va permettre à ces filles, on va leur donner des outils pour conquérir leur liberté. Mais par ailleurs, de l'autre versant étant que les garçons...
On ne se soucie pas d'en faire des féministes, ce qui pourrait être aussi un objectif.
Non, et on a plutôt peur d'eux. C'est toujours l'image négative qui est renvoyée et qui est accolée aux enfants issus de l'immigration. La dimension algérienne ajoute aussi un intérêt particulier parce que c'est l'Algérie, parce que c'est la France, parce que c'est cette histoire dont on n'arrive pas à sortir.
Je ne sais pas quelle est votre date de naissance, mais vous êtes contemporaine de
ben
ces
moi, je sœurs. Moi, je suis Amel, je suis née en 1984, donc ça m'a amusée évidemment. Mon père est arrivé avant 74, 72, 73. Mon père est ouvrier, enfin voilà, il y a beaucoup de points communs.
Ça, j'imagine que vous aviez réfléchi à ça en écrivant aussi le livre, peut-être même en menant l'enquête, c'est-à-dire non seulement les effets de l'enquête à l'intérieur de la famille avec laquelle vous travailliez, mais aussi les effets du livre et de l'enquête plus tard, une fois le livre publié, sur les lecteurs qui pourront se retrouver dans un parcours.
Mais je l'avais un peu fait déjà, une expérience très originale, c'est quand j'avais fait le livre 80% au bac et après, et un an plus tard, deux ans plus tard, on a publié avec Younes Amrani, Pays de malheur, un jeune de cité écrit à un sociologue, où Younes Amrani dit « Comment vous avez fait pour raconter mon histoire, alors que vous racontez l'histoire de jeunes qui sont à 500 km ?» En fait, voilà, c'est quand même, par rapport à votre effectivement distinction entre les sociologues froids et l'analyse de cohorte et les ethnographes comme moi, mais je pense qu'en fait, nos travaux se rapprochent entièrement, et que quand on fait un travail d'ethnographe, les études de cas entre guillemets, ethnographiques ont comme intérêt de pouvoir monter en généralité et de dégager des processus sociaux qui vont s'appliquer à d'autres personnes. Donc effectivement, j'espère bien que ce livre, ça commence déjà avec votre remarque tout à fait intéressante sur votre parcours personnel, je pense qu'il va faire écho à bien d'autres configurations familiales. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en partie se retrouver. Par rapport à ce que vous avez dit, je voudrais juste faire un petit bémol sur la question des garçons. Là aussi, il faut, à mon avis, très fortement historiciser la question. Quand on regarde les deux frères aînés, Rachid et Hasdin, qui sont nés en 75 et 79, leur expérience sociale ne se réduit pas à celle du racisme. En fait, il y a aussi, par exemple, j'ai pas beaucoup parlé, mais l'aîné, c'est aussi, le garçon aîné, est essentiel dans l'enquête parce que il a raté sa scolarité, il a été déscolarisé assez vite, il a eu une enfance compliquée, etc. Donc c'était, entre guillemets, l'une d'entre elles m'a dit, la brebis galeuse de la famille. La preuve en est, c'est qu'effectivement, il a été à un moment délinquant, il a été... Il a fait un vol qualifié, il a eu quelques mois de prison, la sœur aînée est montée au créneau pour le défendre avec sa famille, etc. Mais c'est quand même une famille aussi avec ce genre de situation. Mais lui-même me dit que quand il arrive en sixième, parce que c'est une famille, j'ai oublié de dire, effectivement, du fait même du statut d'invalide professionnel du père, ils sont pas beaucoup de ressources, donc les enfants travaillent très tôt, les filles comme les garçons, le fils aîné Rachid, il fait des marchés à 6h du matin, et qui c'est qui l'embauche? Eh bien, c'est un charcutier. Un boucher charcutier qui, et aujourd'hui encore, il en parle avec beaucoup d'effusion et beaucoup d'émotion, etc., en disant, voilà, pendant des années, j'ai bossé avec lui, j'étais son adjoint, il était sympa avec moi. Je pense qu'il faut éviter des lectures rétrospectives uniquement à partir de ce seul prisme du racisme. Il y a bien sûr des moments, quand on regarde de près l'histoire de ces jeunes-là, il y a des moments où il y a effectivement des capacités. Le sport, par exemple, le deuxième, Hasdin, qui a fait beaucoup de sport, le foot, le basket, c'est un endroit où effectivement ces enfants d'immigrés, ces garçons notamment, se sentent pleinement citoyens, reconnus, etc. Je pense que quand on doit faire cette histoire sociale des enfants d'immigrés algériens, il faut bien voir les endroits où ils sont reconnus, respectés, et d'autres endroits, effectivement, les confrontations, le cas classique, l'entrée en boîte de nuit, la question d'entrée sur le marché du travail, avec quand même, il faut redire ça quand même, pourquoi il est chauffeur de bus RATP? Parce que le concours de la fonction publique, malgré tout, il a été pris, et puis que, bien évidemment, il y a eu, il faut le dire aussi, du côté des politiques publiques, à la SNCF, la question des emplois jeunes sous Jospin, il y a eu, effectivement, des politiques publiques qui ont favorisé l'intégration professionnelle de ces enfants d'immigrés. Et dans le chapitre sur Hasdin, j'insiste là-dessus, l'intégration professionnelle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Faïza Zerwala.
Moi, ce qui me semble aussi important de mentionner, c'est cette question de l'autocensure. La question de l'autocensure, on le voit avec la sœur Amel qui s'inscrit en bac STT, alors que ses sœurs ambitionnent pour elle qu'elle suive un cursus général. Et on voit que elles ont compris, les deux sœurs aînées, elles ont compris qu'il ne fallait pas s'interdire de rêver, parce qu'elles-mêmes, elles ont des ambitions relativement élevées, sachant que ce sont les premières de la fratrie, qu'elles assument une triple tâche parce qu'elles ont ce travail domestique, elles doivent s'occuper des plus jeunes, elles travaillent en parallèle, donc elles ont quand même une charge mentale assez importante. Et c'est vrai que la question de l'autocensure aussi, elle est importante, même si parfois il y a la censure vient des institutions. C'est du registre de l'anecdote, mais on a tous, avec mon entourage, mes amis de mon âge, avec ce parcours assez similaire, cette anecdote où un professeur nous a dit « il faudrait que tu t'inscrives en BEP secrétariat parce que tu aimes bien écrire ». Et ça, c'est des éléments assez fondateurs. Je pense qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué et qu'effectivement, il ne faut pas réinterpréter le passé à l'aune du présent. Mais c'est quelque chose qui a beaucoup joué aussi dans la construction scolaire des enfants d'immigrés.
Alors, par rapport à ça, je dirais deux choses. Il me semble qu'il y a du côté des enseignants, parfois, il y a une forme de réalisme, d'hyper-réalisme. Parce qu'on le sait très bien, par exemple, que le passage 3e seconde, c'est un passage coûteux, qui a beaucoup de taux d'échec en seconde générale. Et donc, il y a certains enseignants, y compris à gauche, y compris syndicalistes, qui vont justement dire à ces enfants d'immigrés, non pas parce qu'ils sont enfants d'immigrés, mais parce qu'ils sont enfants de milieu populaire ayant des moyennes limites en 3e, il vaut mieux tenter un BEP, un bac pro, que aller en seconde générale.
Mais entre réalisme et censure,
oui,
autocensure.
Oui, non, c'est pour ça que je dis pas qu'il y a pas ce que vous dites, hein, mais je dis que les choses sont compliquées. Et sur Amel, là, j'ai un désaccord de fond, en fait, parce que justement, Amel, c'est pas l'autocensure. Amel, elle entre en seconde, en conflit ouvert avec son professeur de sciences économiques et sociales, professeur de SES, et comme elle est en conflit profond avec lui pendant toute l'année, elle sait très bien qu'elle ne pourra pas avoir une première ES, et même par provocation, elle dit « je vais faire une première STT ». Donc c'est pas exactement de la censure, c'est une forme aussi, ce que j'ai essayé de dire dans son cas-là, c'est compliqué parce qu'elle est même, elle n'est pas complètement aussi sûre scolairement que ses sœurs, donc elle va être en guerre contre l'institution scolaire.
Il y a une différence entre les deux groupes de sœurs, si j'ose dire, en fonction de l'histoire, c'est que les plus âgées sont encore sous la pression, une certaine pression sociale par rapport à leur vie future de femmes, qui font que le choix d'études longues les protège de cette pression, là où les plus jeunes sont dans une société qui a évolué de ce point de vue-là, et la
une
question
famille qui a évolué aussi.
Une famille qui a évolué avec la société française, et donc plus de liberté acquise au fond, et donc il y a moins besoin probablement de se protéger en faisant des études de l'idée de devoir se marier jeune. Ça, c'est un trait qui me semble aussi important, Faïsa Zerwala.
Oui, c'est assez intéressant que les filles de la famille comprennent assez vite, finalement, que l'école va permettre de retarder l'échéance du mariage pour lequel elles n'ont pas forcément très envie de succomber. Mais
aucune
par
envie.
Ailleurs, elles n'ont aucune envie, mais il y a cette pression sociale qui est assez intéressante, qui vient pas que des parents, mais qui vient de cette communauté qui s'est recréée dans leur petite ville, avec la pression qui incombe aux filles avec cette question de... Voilà, il faut tenir ses filles, et où finalement la réussite scolaire n'est pas le seul vecteur de réussite, parce que la réussite matrimoniale est aussi une forme de réussite qui va être valorisée.
Tout à fait. Et c'est intéressant justement de voir que pourquoi la mère de famille qui est allée jusqu'en quatrième, qui avait un niveau scolaire au collège en Algérie, un bon niveau scolaire.
Et qui ressent une frustration de ne pas avoir poursuivi ses études.
Oui, elle ressent effectivement une forte frustration, mais c'est elle qui va être la gardienne des traditions pour le mariage de ses deux. Et c'est le père qui va les défendre en permanence, qui va faire en sorte qu'elles vont pouvoir continuer leurs études. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les logiques de commérage dans la cité font qu'effectivement, ce sont les copines de cette mère. La cuisine est, dit Samira, le QG.
Oui,
c'est des mères qui vont dire « Et tes filles toujours pas mariées ? Et tes filles toujours pas mariées ? Et tes filles toujours pas mariées ?»
Avec une espèce d'émulation un peu malsaine, en disant « La fille d'un tel, elle s'est mariée. »
Commérage négatif dont parle Elias.
Faïsa Zerwala, sur la partie, la dernière partie, sur l'aspect, sur la politisation, sur ce qui se passe après l'attentat, sur la réaction à l'égard de la politique menée par Hollande et Valls.
Moi, je trouve que c'est une partie qui répond assez bien à la commande initiale, parce que la sœur aînée, qui est le moteur de ce travail, explique qu'elle veut qu'on raconte enfin les familles algériennes de manière presque plate, sans fioritures, sans... Effectivement, c'est intéressant d'avoir ces destins qui sont finalement très très communs. Il y en a une qui travaille à Pôle emploi, une qui est assistante sociale, un chauffeur RATP, c'est quand même des professions, c'est les Français lambda, et c'est ça qui donne toute la force à cet ouvrage. Et leur rapport aux politiques, je trouve qu'il est très subtil, parce que on voit bien que les filles les plus éduquées, celles qui sont allées le plus loin, sont celles qui sont capables d'avoir une réaction vis-à-vis des attentats la plus réfléchie, la plus mûrie. En revanche, les frères sont beaucoup plus spontanés, vont poster des choses sur les réseaux sociaux qui vont hérisser le poil de la sœur aînée qui leur dit « tu ne peux pas dire ça ». Et malgré tout, il y a toujours ces ambivalences et ces contradictions qui sont très bien racontées entre l'une des sœurs qui trouve que Charlie Hebdo, finalement, ils l'ont quand même un peu mérité, mais culpabilise de ressentir ça. Et ce livre, en réalité, il est important parce qu'il autorise les contradictions et on voit des individus qui sont en recherche permanente de leur place. Et le livre reste ouvert et en ce sens, c'est ça qui en fait un ouvrage important où plein de portes sont ouvertes.
Merci beaucoup, Faïsa Zerwala. On terminera sur cette belle conclusion à propos de ce livre important de Stéphane Beau, La France des Belloumi. Il paraît aux éditions La Découverte. Vous trouvez la référence bibliographique sur la page de la suite dans les idées, une page où vous pouvez réécouter l'émission autant de fois qu'il vous plaira. Vous pouvez également vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production. Catherine Donnet à la technique. Renaud Fluzin à la réalisation. Anne-Laure Chanel. Et c'est Christine Bernard que vous retrouvez dans un instant sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.